Voilà, donc de retour au musée de Grenoble en direct toujours pour ce dernier plateau. Nous sommes au musée parce qu'il y a une après-midi spéciale, anniversaire, les 30 ans de la régie de quartier Villeneuve Village Olympique qui pour l'occasion a organisé 3 tables rondes. La première est en train de se dérouler en ce moment même dans l'auditorium du musée. Nous avons dans le plateau précédent reçu quelques personnes qui participent à la deuxième table ronde qui aura lieu à 16h30 autour des enjeux des quartiers prioritaires, faire appel aux pairs, autrement dit toutes les personnes qui vivent les quartiers de l'intérieur ou à des experts extérieurs. Et puis à 17h30, il y aura la troisième et dernière table ronde. Que s'est-il passé encore à la Villeneuve, point d'interrogation, l'image des quartiers populaires, fantasmes et réalité. Et ce sont donc plusieurs intervenants qui participent à cette dernière table ronde qui sont avec moi autour de la table. Bonjour à tous, c'est bonjour. 5 personnes maintenant, on finit en fanfare. On fait les présentations en commençant par ces dames. Donc nous avons Marie-France Chamec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administratrice de la régie et habitante du quartier de la Villeneuve.
Absolument, oui, j'habite sur la Villeneuve.
Depuis longtemps ?
Depuis 42 ans, je crois.
Depuis les 76, débuts, alors
Presque.
Ne nous dites pas que vous étiez la première habitante.
Non, pas du tout. Je ne suis pas habitante depuis le début, mais presque
le
début.
Parce que 73, c'était le début
76.
Du quartier. Donc
76.
Vous, c'est 76, voilà. Ouais. À vos côtés, Sabrina Alves, bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, donc le jeu, c'est qu'il va falloir vous partager le micro, il faut bien le tourner vers l'une ou vers l'autre quand vous parlez. Donc Sabrina, vous êtes journaliste indépendante, membre du collectif La Friche. Et vous avez notamment travaillé sur un documentaire, on va y revenir pendant la discussion, mais juste pour nous présenter le collectif La Friche.
En fait, c'est un collectif de journalistes indépendants qui fait de l'éducation aux médias un peu partout en France.
Ouais, c'est un collectif, donc il y a des représentants sur tout le territoire. Ah donc c'est donc plus votre voisine qui va pouvoir en parler. Donc je présente justement votre voisine, c'est Rugyata Sall.
Bonjour. Bonjour.
Donc vous êtes également journaliste indépendante, membre du collectif La Friche et vous travaillez également pour Mediapart.
Oui.
Alors bonjour. Dans un premier temps, bonjour le collectif La Friche.
Alors oui, c'est un collectif de journalistes indépendants. On est une petite dizaine de journalistes. À la base, c'est 4 confrères qui sont plutôt basés dans le Nord et qui travaillent dans les quartiers populaires autour de Roubaix, Lille, etc. Et donc, c'est un collectif où ces journalistes indépendants font aussi beaucoup d'ateliers d'éducation aux médias pour vulgariser un petit peu comment est-ce qu'on travaille et raconter notre profession.
Quelques mots aussi sur Mediapart, puisque certains parmi les auditeurs en ont déjà entendu parler, d'autres ne savent pas du tout ce que c'est.
Oui, alors c'est un média indépendant qui justement a accepté de diffuser notre série documentaire média « Les quartiers vous regardent » au mois d'août cet été.
Ça, c'est une série de documentaires, hein, c'est ça ?
Oui.
Et c'est en réaction au fameux documentaire suite à la Villeneuve ou ça n'a rien à voir
Si, tout à fait. Alors, la série s'appelle Média, les quartiers vous regardent. Et on est parti dans 5 villes en France pour parler du traitement médiatique des quartiers populaires. Alors, on a commencé par Clichy-sous-Bois. On raconte les débuts, tout ce qui s'est passé autour des révoltes en 2005. On est également à Amiens où on questionne le rapport entre les journalistes de presse locale et les habitants de la cité des quartiers nord. Et donc également à Beaumont-sur-Oise, on revient sur l'affaire Adama Traoré et le collectif qui réclame vérité et justice pour Adama depuis sa mort il y a 3 ans. À Grenoble, on est venu pour raconter comment est-ce que les habitants de la Villeneuve ont riposté à la, comment dire, oui, on peut parler de maltraitance médiatique qu'il y a pu y avoir dans ce documentaire d'Envoyé spécial qui stigmatisait le quartier.
Ouais, sous couvert de faire un reportage, un documentaire objectif sur le quartier, finalement, ça n'a pas du tout été le cas, ça n'a pas été vécu comme ça hein, par de nombreuses personnes et notamment tous les habitants. C'était Villeneuve, le rêve brisé, hein, c'était ça le titre du documentaire. On va y revenir de toute façon et vous allez pouvoir nous parler un peu plus de cette série de documentaires. Deux messieurs sont également avec nous, Alain Manac, bonjour.
Bonjour.
habitant de la Villeneuve. Oui,
depuis 83.
83, donc...
J'ai un nouveau.
Plus nouveau, vous êtes un petit jeune. Et puis, vous représentez le collectif Villeneuve Debout, ouais, qu'on a souvent reçu sur notre antenne, puisque vous êtes partie prenante sur beaucoup d'actions qui touchent à l'image et y a une façon de la participation habitante, l'image
ensemble, de la Villeneuve,
voilà, etc. Et puis, le dernier invité, c'est Benjamin Bultel. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Benjamin, vous êtes toujours rédacteur en chef.
Oui, oui, mais bon.
Du Crieur, ça n'a pas changé.
Je suis le seul salarié, donc c'est facile d'être le chef.
Mais... c'est photocopieur.
Donc, journaliste. Donc, le Crieur de la Villeneuve.
Je suis secrétaire, je fais le café.
Comme ça, voilà, vous avez des comptes à rendre qu'à vous-même.
Voilà. Et moi aussi, habitant du quartier. Moi, je suis encore plus jeune, parce que moi, ça fait depuis 2014.
Mais c'est bien comme ça, il y a plusieurs regards suivant les époques auxquelles vous êtes arrivé à la Villeneuve. Le Crieur de la Villeneuve, petite présentation.
Et ben, petite présentation, c'est un média du coup du quartier de la Villeneuve de Grenoble, parce qu'on parle que de l'actualité de ce quartier-là, donc du grand quartier de la Villeneuve, ça fait plus de 10 000 habitants. Et on parle de l'actualité, on fait des portraits d'habitants, on tient un agenda de ce qui se passe sur le quartier. Voilà, on essaye de tenir les habitants informés de ce qui se passe dans leur quartier, et puis à travers ça, de changer un peu l'image maltraitée, comme l'a dit Rogui, du quartier de la Villeneuve, ouais.
Est-ce qu'il y a participation des habitants au journal ?
Oui, bah en fait, l'intégralité du journal est réalisée par les habitants, que ce soit les bénévoles ou les salariés. Et voilà, on organise des conférences de rédaction qui sont ouvertes pour que les gens puissent venir proposer des sujets. Les gens nous proposent des petites idées d'articles, des photos, des choses comme ça, voilà.
C'est à la fois donc un format papier, puis il y a aussi.
Alors on a commencé comme un site internet,
web.
Voilà. L'adresse est www.lecrieur.net et on a lancé un an plus tard une version papier qui est diffusée mensuellement, donc sauf en juillet et en août. Donc 10 numéros par an qui est disponible dans le quartier. Donc on a des petits présentoirs en bois où les gens peuvent avoir en accès libre le journal. Il est vendu à prix libre, donc on a des petites caisses où les gens peuvent mettre. Des sous. Donc on est content parce qu'on a réussi à rembourser les présentoirs déjà.
Voilà. C'est un bon début.
C'est un bon début. L'objectif maintenant, c'est de voilà que les sous récoltés puissent couvrir l'impression. Et puis voilà. Et puis on fête les 5 ans en fait du journal le mois prochain. Voilà, avec un numéro un peu spécial. Et puis on est très content d'accueillir nos amis journalistes de la Friche avec leur bon documentaire qu'ils ont fait sur le quartier.
Merci.
Et si je pose la question aux deux autres habitants de la Villeneuve, Marie-France et Alain, le Crieur, vous y participez de temps à autre c'est quel regard vous portez sur ce
média? Le Crieur, j'ai participé avec d'autres à la création du Crieur, puisque c'est un média qui sort de la lutte des habitants contre l'envoyé spécial, et qui a décidé, avec l'aide de Gilles Bastin, de l'IEP, de plein de gens, de dire qu'il faut qu'on fasse un média spécifique. Donc on participe à ça. Donc moi, j'y ai participé au début, j'y participe un peu de temps en temps. On habite côte à côte et on se voit souvent, donc ça me vient.
Moi, je ne participe pas à la rédaction du tout du Crieur. Par contre, je le vois, je le lis. Il me semble qu'on reçoit aussi par Internet des fois des infos. En tout cas, par le biais du baratin, on a aussi souvent des informations. Donc, c'est un maillage aussi, la Villeneuve. Et donc, on n'est pas... Rares sont les personnes qu'on ne côtoie pas. En tout cas, des personnes, je vais être quand même un peu plus précise, un peu militantes, on va dire, et qui veulent faire bouger des choses ou s'impliquer sur le quartier. Les autres veulent sûrement faire des choses aussi. Hein, mais disons, celles qui veulent vraiment s'impliquer sur le quartier. Donc, on se connaît tous. C'est un village, en fait. Donc voilà, donc le Crieur je connais, la régie, il y a beaucoup de choses qui sont reprises par Benjamin à travers le Crieur sur des actions menées par la régie, ne serait-ce que
quelques collaborations
voilà,
aussi avec
aussi,
la régie.
Voilà aussi, voilà, voilà. Non, c'est connu.
Et donc vous tous, vous faites partie de ces fameux acteurs locaux hein, de la Villeneuve, tous ceux dont on ne parle pas dans les grands médias. Et qui participe à changer, faire évoluer, entre autres, l'image du quartier. Et cette image, justement, bah, c'est la thématique de la table ronde sur laquelle vous allez intervenir, donc Benjamin, Alain et Rugata. Pendant longtemps, les quartiers populaires, ce qu'on appelait quartiers populaires, on pensait surtout, je n'étais pas né à l'époque, mais les gens pensaient plutôt, pauvreté. Aujourd'hui, quand on pense quartier populaire, on pense davantage violence. Ça date de quand, c'est un peu ce glissement? C'est depuis l'après-guerre, la période un peu moderne, progrès, évolution, les quartiers ont changé, les banlieues sont apparues?
Il y a quand même un amalgame un petit peu dans cette description, parce que quartier populaire, c'est aussi quartier de peuple, c'est-à-dire l'ensemble d'un peuple qui habite là, parce que de la Villeneuve, il y a quand même, malgré ce qu'on en dit, une vraie mixité sociale qui existe encore et qui permet que de faire peuple. Donc, alors évidemment, c'est aussi la pauvreté, parce qu'on a plus de la moitié des habitants qui sont en dessous du seuil de pauvreté.
C'est ça,
qui
habitent là. Quartier populaire, c'est le quartier des classes populaires aussi.
C'est le quartier des classes populaires, mais c'est aussi le quartier du peuple. Moi, je tiens à ça parce que je crois que c'est une perspective ou une possibilité de devenir d'objectif. Et puis, c'est aussi un quartier de violence. Ça, on le sait depuis fort longtemps. Et ça ne s'améliore pas et c'est difficile d'appréhender cette question sans constater qu'on n'est pas en échec, mais on ne fait pas beaucoup reculer les choses. Enfin, il y a des seuils de haut et de bas. Il y a eu un pic énorme en 2010 après la mort de Karim Boudouna qui a suivi derrière, puis ça s'est calmé. Et puis je sens qu'il y a des choses qui repartent. Enfin, on est un peu dans des tensions avec ce que Luc Brunner disait dans son article des jeunes incontrôlés, qui sont quelques-uns, 50, 60, pas plus, mais qui foutent pas mal de la pagaille et qui interviennent de plus en plus par des brûlures. Et moi, je rajoute une violence récente, c'est celle du trafic qui installe son territoire. Et ça, c'est forcément et nécessairement violent. Ce n'est pas la consommation qui est violente, c'est le trafic en lui-même. Parce qu'il crée de la méfiance, il crée de la défiance, il crée des zones à protéger, il crée des tas de choses. Et je crois beaucoup que la violence actuelle est beaucoup liée à l'installation du trafic.
J'ai le droit de prendre la parole,
bien
là.
Sûr.
D'accord. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Alain. C'est vrai que cette violence n'est pas forcément physique. C'est plus psychologique parfois. Après, il faut comprendre que toute cette population qui est souvent paupérisée quand même, on a une installation de la pauvreté qui peut-être a grandi depuis le moment où on s'est installé sur le quartier. La solution, c'est bien sûr l'emploi. Et il n'y a pas de réponse à ce manque d'emploi pour ces quartiers-là à certains moments. Est-ce que c'est quelque chose, un phénomène qu'on retrouve dans toutes les villes, hein, ce n'est pas spécifique à Grenoble. Mais c'est vrai que je ne voudrais pas qu'on reste non plus sur une note trop pessimiste. Parce qu'effectivement, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on continue à se battre avec tout un tas de personnes. Le problème de... On peut allier à ce que tu disais le mot « sécurité ». Se sentir en sécurité, ça n'est pas rien. Donc souvent, nous, les habitants qui sommes sur le terrain, on a tendance à dire « Oui, mais que fait la police? Elle n'est pas là. » Et on sait très bien que dans ces problèmes, que vient de ce problème de la drogue, on sait très bien que ce n'est jamais les solutions immédiates qu'on souhaiterait voir qui sont prises, enfin qui sont apportées. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Benjamin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en tant qu'habitant.
Je ne suis pas trop d'accord. Mais...
Tu n'es pas trop d'accord avec moi?
Non, enfin, je ne sais pas. Moi, je me sens pas particulièrement en insécurité à la Villeneuve.
Non, mais moi non plus. Non, mais justement, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué parce que moi, je me balade dans la Villeneuve à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. C'est vrai, parce que j'en rentre tard, etc. Mais est-ce que c'est parce que nous, on y a toujours habité, qu'on ne connaît pas forcément ces jeunes maintenant qui sont en train de prendre lieu et place et pour la cité sur la place du marché, et vous, je pense, sur la partie de la place des Géants, il y a des choses qui se passent. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis pas très... Moi, personnellement, je ne suis pas forcément inquiète. Il y a beaucoup de gens qui le sont, par contre.
Oui, mais je ne pense pas que les dealers soient particulièrement un problème, en fait. D'une part, c'est quelque chose... En fait, ce qui est très compliqué, c'est que c'est des gens extérieurs qui viennent acheter la drogue dans le quartier.
Exact.
Donc, en fait, et c'est pas particulièrement les classes populaires. C'est aussi les classes,
bien sûr.
Classes aisées qui viennent acheter la drogue et qui font...
Je parlais pas de la consommation.
On parlait de
l'installation du terrain pour vendre.
Oui. Et après, je pense pas que les dealers créent particulièrement d'insécurité dans le quartier. Enfin, c'est des gens qui sont posés.
La seule chose, j'entends ce que tu dis. Ce que je réagis sur ce qu'a dit Alain, c'est que c'est cette espèce de non-droit, de territoire, de non-droit à un moment donné. Moi, je le vis sur la place du marché. Je suis juste au-dessus. Hein. Donc, y a une installation qui se fait effectivement, et je pense ce serait mieux si on arrivait à éviter que les gens s'installent là. C'est un lieu piétonnier normalement, et là, du coup, on a des voitures qui s'installent et ça crée des nuisances. Toi, t'es aussi au pied, hein, t'es au-dessus, comme moi.
Oui, mais je pense qu'il faut différencier les incivilités, voilà, les voitures dans les zones piétonnes ou les gens qui mettent la musique un peu fort la nuit, des questions de violence qui sont... Enfin, l'endroit le plus craignos de Grenoble, c'est le parc Pont-Mistral nuit, qui est en plein centre-ville.
C'est pour ça que j'ai précisé, moi, ce n'était pas une violence physique. C'était plus pour certains une violence psychologique. C'est-à-dire qu'après, on rumine des choses, on imagine des choses.
Mais la violence psychologique, c'est la violence qui, de la disparition des services publics dans les quartiers. Oui. C'est la violence du chômage, violence des démolitions de logements sociaux, des gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller habiter. C'est toutes ces violences-là, en fait, qui peuvent... le quotidien des gens, en fait, il est là-dessus, quoi.
Alors là, en tout cas, c'est du ressenti entre habitants de la Villeneuve. Quand on parle d'image, c'est aussi beaucoup les gens extérieurs. Quand je disais dans l'esprit, à une époque, les quartiers populaires, c'était plus synonyme de pauvreté. Aujourd'hui, les gens pensent plus directement à violence. C'est aussi le rôle des médias, hein, les médias qui véhiculent beaucoup cette image-là. En communication, il y a cette adéquation qui est voulue entre l'image et l'identité. Là, c'est pareil. Vous travaillez sur l'identité du quartier et il y a forcément une image qui ne correspond pas forcément à ce que vous essayez de transmettre. Et une image qui n'est pas vraie, puisque beaucoup d'habitants, comme Marie-France, vous l'avez dit, le confirme, qu'ils se sentent bien à la Villeneuve, enfin bien, bon, relatif, mais ils ne se sentent pas en danger. Ils sont heureux d'y vivre, mais là, on parle bien de l'image qu'ont les gens extérieurs. Villeneuve, c'est comme Tessère à une époque, comme Mistral aujourd'hui, quartier de violence. Et quartier, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit quartier sans rajouter quartier populaire, on part tout de suite à banlieue et à tout ce qui va derrière.
Oui, je suis assez d'accord. Le mot quartier suffit à stigmatiser une zone géographique. On rajoute rien d'autre et on sait déjà que on imagine que c'est un type de population. Je suis désolée, mais je pense que les médias, les reportages qui ont eu lieu, on s'est battu beaucoup à l'époque ce film sur la Villeneuve qui nous a mis à mal. Il y a eu des événements qui ont été difficiles, alors là, violents du coup, c'est vrai qu'il y a eu, mais... Moi, je m'évertue à l'extérieur. J'ai un réseau amical qui n'est pas que sur la Villeneuve, loin s'en faut. Je m'évertue à défendre tout le temps et à dire qu'il se passe des choses assez extraordinaires à la Villeneuve en permanence. On a un parc qui est assez exceptionnel. Il y a une rénovation actuelle. Je pense qu'on n'est pas en accord avec les démolitions, avec Benjamin, et moi, je ne suis pas en accord avec son regard, mais ça, c'est les points de vue propres à chacun. Il y a en tout cas quelque chose qui est voulu de la part des collectivités, de certains habitants, à défaut d'avoir tous les habitants, sur une qualité de vie qui j'espère, se fera jour, avec des transformations du quartier, des réhabilitations qui sont quand même... indispensables, me semble-t-il, et qui permettront, peut-être pas dans les 2 ans qui viennent, parce qu'il faut que les travaux se fassent de toute façon, d'apporter dans ce quartier un vrai souffle nouveau. Après, il faut que ça change dans la tête des gens. Qui peut le faire ? Les médias. Si on ne met pas le doigt sans arrêt sur les choses qui sont négatives à certains moments, eh bien oui, effectivement, on va peut-être changer la manière de regarder ce quartier. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'y passent actuellement. Alain habite à un autre bout du quartier où il n'y a pas tant de choses qui sont modifiées. Et moi, je vais peut-être arrêter de prendre la parole. Parce que...
La rénovation, c'est une chose, mais il y a aussi faire changer les mentalités, c'est aussi faire un travail que moi je baptise et que j'en suis content, d'éducation populaire, réellement. C'est-à-dire que s'appuyer sur les gens pour que les mentalités se transforment, ça passe par des actions éducatives. Je pense à des gens comme l'association Madame Rutabaga qui fait des choses, l'association CAP, d'autres qui font des universités populaires, d'autres qui font des tas de choses. Et je crois que petit à petit, il ne faut pas lâcher le territoire. D'abord, il ne faut pas lâcher le territoire. Il faut faire des propositions et des actions avec tous les acteurs de la Villeneuve le plus possible ensemble, de façon à ce que les mentalités bougent, de l'intérieur également, et qu'il y ait une réflexion, qu'on puisse avoir une réflexion sur la véritablement sincérité, par exemple, sur la police, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devrait être, etc. Sur les discriminations, à quoi ça sert, enfin, à quoi ça sert.
Ça dessert.
Oui, c'est ça. Enfin, tout un tas de réflexions qui peuvent être des réflexions profondes, et je pense que l'important, c'est de passer à un stade volontaire et systématique de formation, d'éducation des habitants dans l'ensemble. Ça ne veut pas dire les mettre dans un moule. Ça veut dire faire l'éducation populaire. Son objet, c'est de désaliéner les gens, de les rendre responsables et autonomes de leur propre réflexion, de leur propre culture, de leur propre pratique, et d'en faire des acteurs et non pas des consommateurs d'activités. Et je crois que ça, c'est important. Si on arrive... Alors, on est dans la souffrance, hein, toutes les associations, à part les grosses associations, et encore, c'est fragile. Mais on a fait tout un travail avec Alpes Solidaires pour réfléchir sur la vie des associations dans ce quartier. Elles sont toutes en péril. Parce que la vie associative aujourd'hui est matraquée systématiquement avec des complexifications administratives pour obtenir les financements, avec un refus de prendre en compte qu'un emploi dans une association, c'est pas un sous-emploi, mais c'est un emploi qualifié qui doit être capable de faire de la performance, qui doit être capable d'animer des débats, de rédiger des choses. C'est pas un bac moins 5 qu'il faut dans les associations aujourd'hui. C'est quelquefois des bacs plus 5 avec des gens qui ont en plus la capacité d'être dans le quartier, d'y vivre, de comprendre les gens, de leur parler. Et là, aujourd'hui, c'est impossible dans la situation actuelle pour que de petites associations s'équipent de gens qui sont en compétence.
Alors on va parler de la série de documentaires, hein, sur lesquels vous avez travaillé, mesdames les journalistes, mais juste avant, peut-être rappeler qu'il y a eu un événement un petit peu onde de choc à la Villeneuve qui a marqué le début du collectif Villeneuve Debout. C'était 2010, avec l'été 2010 qui a été marqué par de nombreuses journées de violence. Ça a été assez intense. Et puis la venue des politiques, et notamment de Nicolas Sarkozy et son fameux discours
31 juillet.
Voilà, du 2010. Ça aussi, ça a été quelque chose qui a fait réagir viscéralement.
Bah oui.
Tous les habitants des quartiers, mais pas que.
Le propos de Sarkozy, c'est quand même je vais faire la guerre à la délinquance, et la délinquance, c'est l'immigration. Enfin, un peu ça, je schématise, mais c'est ça qu'il a dit.
Oui, en raccourci, c'était un peu compris comme ça, oui. C'était assez insupportable.
Alors, j'aurais aimé avoir le sentiment de chacun comment vous aviez vécu, et vous, si vous aviez le retour que vous aviez eu sur aussi ce discours de Sarkozy, mais on risque de prendre trop de temps, donc c'est pour ça qu'on va passer. Et du coup, il y a eu ensuite, c'était de quelle date le documentaire qui est passé sur France 2 ?
En 2013.
En 2013. Donc ça aussi, un documentaire où pas mal de gens de la Villeneuve ont participé de toute bonne foi. En ayant été plus ou moins trompé, hein, par la journaliste.
Plutôt plus que moins.
Ouais. Et du coup, ça a donné le résultat que certains connaissent peut-être, ceux qui l'ont vu, un documentaire qui insiste sur le côté sombre de ce quartier. Donc, en réaction, il y a eu une série de documentaires qui a été voulu. Comment c'est venu d'où, de qui cette idée ?
C'est venu du fait que, enfin, parler du traitement médiatique dans les quartiers, pour nous, c'était pas possible de ne pas passer par Grenoble par rapport à ce qui s'était passé en 2013, puisque je rejoins ce que vous dites. Nous, les personnes qu'on a interrogées, on a senti vraiment un sentiment de trahison, quoi, parce que parfois, les gens refusent de parler avec les journalistes. Là, les gens ont joué le jeu, sont allés vers elle pour l'épauler dans la construction de son documentaire, sauf qu'à la fin, quand on regarde le résultat final au montage, c'est pas du tout la réalité de ce qu'eux, ils voulaient montrer de leur quartier. Donc, du coup, nous, on a décidé de venir à Grenoble pour raconter comment est-ce que les habitants de la Villeneuve ont riposté, ont répliqué, se sont pas laissés faire. Ils se sont pas laissés faire parce que une procédure judiciaire contre France Télévisions, ça n'arrive pas tous les quatre matins, et ils ont tenu. Effectivement, ils n'ont pas gagné, mais ça a permis déjà de révéler pas mal de choses sur la commande, sur la manière dont finalement les journalistes de ces grands médias, même si j'aime pas l'expression, commandent des sujets sur l'ultra-violence et ne se préoccupent pas du tout du reste de la vie quotidienne des habitants. Moi, je connaissais, enfin, j'étais jamais venue à la Villeneuve avant de venir pour travailler sur ce documentaire. J'ai apprécié le cadre de vie, les personnes qu'on a rencontrées, qui étaient très intéressantes, qui avaient plein d'anecdotes à nous raconter, que ce soit sur des actions en matière d'éducation, des sportifs, des artistes. Tout le monde avait sa petite anecdote à nous raconter. Et ça, malheureusement, on nous dit que ça ne transparaît pas dans la manière dont ils sont traités dans les médias au quotidien, quoi.
Pour le coup, vous avez été bien accueillis?
Oui,
enfin,
oui, bah oui travail, par ces messieurs,
ouais, voilà, des associations qui ont dit bon, là, on va recevoir de vrais journalistes.
Non, de repérer, oui, on avait repéré un petit peu les acteurs associatifs dans le quartier. Et puis après, c'était même en se baladant, on est arrivé à un moment où il y avait une manifestation, enfin un rassemblement contre la destruction dont on parlait tout à l'heure. Et donc là aussi, on a rencontré des gens avec qui on a discuté, qui nous ont raconté leur quartier et qui nous ont raconté aussi l'impact que ça peut avoir. La manière dont on traite la Villeneuve, c'est un impact pour les habitants de la Villeneuve. Quand on dit « je viens d'ici », on peut avoir quelques complications pour trouver un stage. Tu me racontais, Alain, c'est dans l'épisode où quand on postule quelque part... Tout de suite, ça donne une image. Je viens de la Villeneuve. Il y a un autre habitant qui nous disait que la destruction aussi, que la rénovation urbaine est aussi liée à cette image du quartier qu'on a envie de changer.
Pour les Grenoblois donc qui n'ont vu que le documentaire de France 2, où est-ce qu'on peut le voir ce deuxième documentaire sur la Villeneuve?
Alors, il a été diffusé sur Mediapart fin août. Donc, pour les personnes qui sont abonnées, c'est toujours sur le site de Mediapart. Et ce sera en accès libre à partir du 14 octobre sur la chaîne YouTube du collectif La Friche.
On peut peut-être rappeler que demain, il y a une projection
aussi.
Tu
oui.
peux en parler peut-être, Benjamin?
Oui, du coup, demain, on projette donc les cinq épisodes de la série de documentaires au café associatif Le Baratin, donc le café... Ouais. Associatif qui est situé au patio à l'Arlequin. C'est donc mercredi 9 octobre à 18h30. Et puis après, ils sont mis sur le site du Crieur en accès libre, donc www.lecrieur.net courant octobre, à partir à peu près du 14 aussi.
Ouais. D'accord.
Et voilà, parce que le travail qu'on a fait sur Grenoble, on l'a fait aussi sur d'autres villes de France pour montrer que c'était une situation qui arrivait un peu partout dans les quartiers de France. On l'a fait à Amiens, on l'a fait à Clichy-sous-Bois, donc pour 2005. On l'a fait aussi à Beaumont-sur-Oise et on l'a fait aussi à Marseille.
Et alors, vous qui êtes allé dans différents quartiers de France, vous sentez qu'il y a effectivement un esprit commun parmi tous ces habitants? Juste avant, sur le plateau précédent, on évoquait quand même le fait que chaque quartier a son histoire, a son vécu, a ses traditions. Il y a des choses, chaque quartier finalement est différent d'un autre. Mais vous, comment
chaque
vous
chaque village aussi.
Mais ils ont...
Je ne sais pas. Mais comment vous
oui, c'est
vous
vrai
avez
que
ressenti
ça. L'appellation les quartiers, la banlieue, ça veut absolument rien dire, quoi. Je veux dire qu'on soit à la Villeneuve, à Grenoble ou à Bondy ou dans d'autres quartiers. Enfin, chaque quartier a son histoire. Mais sauf que le point commun entre tous ces quartiers, c'est que souvent, quand on va parler d'eux dans les médias, ça va être pour parler des voitures qui brûlent, du trafic de drogue. Et en fait... Ces quartiers sont complètement différents, mais on va toujours en parler de la même manière sur toutes les choses qui ne vont pas. Alors que, en fait, il faudrait juste que ce soit équilibré, quoi, qu'on raconte à la fois ce qui se passe. Il ne faut pas nier la réalité des trafics comme tu viens de le raconter. Mais il se passe aussi des choses qu'il faut raconter aussi. Il y a des gens qui se bougent, qui créent des associations, qui créent des entreprises, qui créent des festivals, il y a des artistes, enfin, comme partout en fait. Pourquoi est-ce que ne pas faire, la rentrée scolaire, le JT dans un quartier, aller interroger les enfants et les parents à la sortie d'une école dans un quartier comme on peut le faire un peu partout et n'aller dans les quartiers que quand ça brûle, quoi. C'est quand même assez problématique encore aujourd'hui.
En tout cas, moi, quand j'écoutais Alain, Rougui, Benjamin et Marie, je m'identifiais... Du coup, j'ai pas tourné l'épisode de Grenoble, mais je m'identifiais beaucoup aux problématiques que... Moi, j'ai toujours habité en banlieue, donc du coup, aux problématiques qu'il y avait dans mes quartiers, ou même à Clichy-sous-Bois. J'habite à Bondy, donc Clichy-sous-Bois, je l'ai vécu. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que j'avais une impression de déjà-vu, parce qu'on nous colle une image à partir du moment où on est d'une banlieue, on nous colle une image. Et moi, par exemple, j'ai fait mes études à Paris, c'était compliqué de dire que je venais de banlieue, parce qu'il y avait tous ces préjugés derrière, quoi.
Oui, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'associations, de militants qui se battent pour reconnaître la discrimination territoriale, en fait, pour dire qu'il y a aussi ce type de discrimination-là, au-delà des discriminations de race, etc., qui rentrent en compte.
Il y a aussi, on en parle assez régulièrement, nous, parce que c'est quelque chose qu'on vit dans les rédactions, le fait que la corporation journalistique, c'est un peu une masse... uniforme de personnes qui viennent des mêmes écoles, qui ont fait les mêmes parcours, de milieux sociaux identiques. Et du coup, avec ce manque de diversité dans les rédactions, on ne peut pas traiter la réalité de la même manière. Je veux dire, quand on va dans un quartier pour un reportage, on ne va pas le raconter de la même manière si on a vécu un peu... ce qu'on raconte. Je dis pas qu'on est forcé de travailler que sur ce qu'on connaît, mais avoir une rédaction
on est plus neutre et objectif. Ouais. Hein.
Si on a une rédaction avec une pluralité de profils, avec des gens qui viennent de partout, et ben c'est comme ça qu'on enrichit et qu'on peut parler, qu'on peut raconter le réel, ce qui est la base de notre métier, quoi.
Alors, vous allez donc intervenir sur la dernière table ronde dans le cadre de cet après-midi anniversaire de la régie. Rapidement, ça sera le mot de la fin, puisqu'on va devoir rendre l'antenne. Émeric nous attend avec impatience de reprendre la main. Qu'est-ce que vous en attendez un petit peu de cette table ronde? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer? C'est un petit peu ce dont on a discuté ici.
Ce que j'ai envie de dire, c'est donner les clés du camion aux habitants.
Ceux qui savent conduire.
Oui, il faut leur apprendre à conduire. Voilà. Donc.
Le son de code.
Ouais, Benjamin.
Non, je ne sais pas si j'ai des attentes particulières, mais j'espère que voilà, ça ne tournera pas juste autour du thème de la violence quand même, parce que c'est vrai qu'ouvrir ouvrir la question des quartiers populaires sur le thème de la violence, c'est quand même très 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 très, très connoté, quoi.
Moi, je rejoins Benjamin. C'est vrai qu'on a, c'est les travers qu'on dénonce à travers le travail qu'on fait au quotidien, quoi. C'est raconter le réel, raconter le réel.
Bon, en même temps, j'ai ouvert sur la violence, mais on est vite arrivé dans le réel, hein.
Oui, heureusement.
Bon, merci. Merci à tous les cinq. Oui.
Non, je voulais juste effectivement insister sur ce que dit Benjamin et vous. Qu'effectivement, il faudrait voir le beau de temps en temps, et pas toujours le noir, le blanc, le lumineux, parce que je pense que le quotidien est déjà compliqué. Donc si de temps en temps, on n'apporte pas quelque chose qui, comme une fleur, tout d'un coup, est en train d'éclore et qui montre toute sa beauté, il y a des beautés dans les quartiers. Il faut vraiment que, de temps en temps, les journalistes s'en emparent aussi. Il y en a qui le font, hein. Mais plus souvent, ça serait bien. Et merci à eux s'ils le font.
Merci à tous les cinq. Bonne continuation et bonne participation dans le cadre de cette table ronde qui, je le rappelle, aura lieu tout à l'heure à 17h30 sur l'image des quartiers populaires, fantasmes et réalité. C'est à l'auditorium du musée de Grenoble. C'est ouvert au grand public, donc n'hésitez pas à passer si le thème vous intéresse. Il est 16h30, donc ça veut dire que la deuxième table ronde va commencer dans quelques minutes et celle-là, elle traite des enjeux des quartiers populaires, faire appel aux pairs, donc c'est-à-dire aux gens des quartiers ou à des experts. Vous pouvez aussi venir rapidement. Voilà, donc tout ça, c'est dans le cadre du 30e anniversaire de la régie quartier Villeneuve Village Olympique. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne continuation, une bonne fin d'après-midi sur News FM. Tout de suite, c'est Émeric qu'on retrouve pour le 16-19. À très bientôt sur les ondes. Ciao à tous.
Au revoir.
Ciao.
Merci. Au revoir.